RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds.
Basket Time sur RMC, c'est votre rendez-vous du mardi. Vous podcastez sur rmc.fr, bien entendu, pour retrouver votre Dream Team favorite. Alors, ça change un peu chaque semaine. Aujourd'hui, nous sommes avec Stephen Brun. Hello, Steve.
Salut, mon petit Pierrot.
Nous sommes avec Fred Weiss. Salut, Fred.
Salut, salut.
Et il fait son grand retour. C'est le trublion de Basket Time, c'est Sacha Alix. Salut, Sacha.
Salut.
Alors, qu'est-ce que tu vas nous vendre aujourd'hui? Que Tyronn Lue avait un Iverson dans chaque orteil?
Non,
que...
il va nous vendre Dwight Howard était meilleur qu'Hakeem Olajuwon.
Pourquoi pas?
Allez.
On va en parler de Dwight Howard. C'est un sujet qu'on n'a pas encore traité. Le Magic d'Orlando. Spécial Magic d'Orlando. Premier débat, celui d'actualité, le Magic, est-ce un candidat au titre ou un feu de paille? Pour l'instant, ils sont sur une série impressionnante. On va en profiter pour parler un peu de basket international avec les frères Wagner. Cette Allemagne, qui est déjà championne du monde, peut-elle même rêver mieux? Pourquoi pas être championne olympique à Paris en 2024?
Tu te rends compte, c'est des balles, on le faisait sur la France, maintenant on
a basculé sur l'Allemagne. Ouais. On a basculé sur l'Allemagne, mais on ne sait jamais, hein, un petit retour en force de Victor et des autres, pourquoi pas?
Ou pas,
il n'y croit pas du tout, Fred. Fred, je viens d'en discuter avec lui avant d'enregistrer le podcast, il n'y croit pas une seule seconde.
Pas une seule seconde.
On en parlera dans la deuxième partie. Et enfin, on vous racontera le Magic de Dwight Howard, qui est allé en finale face aux Lakers de Kobe Bryant avec un certain Mike Pietrus, l'homme qui a défendu Kobe et qui viendra nous raconter son Dwight, son Magic et son Kobe. Et bien sûr, le quiz sera exclusivement consacré au Magic d'Orlando, puisqu'on en profite, on n'en parle pas souvent du Magic.
Non.
Qu'est-ce
non.
que vous pensez, tiens, avant de démarrer de cette franchise? Franchise totalement insignifiante?
Non. Non, c'est une franchise un peu sexy quand même. La ville est sexy.
C'est le Shaq.
Oui, c'est le Shaq, c'est Penny Hardaway. C'est des joueurs iconiques. Donc c'est une franchise qui est jeune encore. Hein.
Fred.
Non, c'est une franchise que j'aime beaucoup, moi.
Que bah, tu aimes beaucoup.
Le Shaq qui est passé. Il y avait cette relation avec Penny Hardaway aussi. Moi, pour moi, ça
puis, Fred, il aime bien Disney en plus.
Ça, oui, bien sûr.
Bah, c'est une franchise qui récemment a été un petit peu perdue, mais qui commence à retrouver la lumière. Historiquement, moi, je l'ai toujours trouvé un petit peu stylé. C'est vrai que le Shaq est très marquant et les maillots, etc. Je trouve que c'était une équipe qui représentait bien la NBA.
Allez, on est parti donc pour un spécial Orlando Magic Basket Time tous les mardis en podcast sur rmc.fr.
Off the glass and in. Paolo Banchero, the rookie of the year. Boy, he has delivered tonight. 28 for Paolo. Now, Paolo Banchero is going to back down Caruso. Paolo goes to work, the right-handed hook in the way. It's good, it drops through. Paolo Banchero, the big fella. Thanks. Oh my goodness, Halliburton off to Banchero.
Anthony, three ball.
He got it.
Anthony to Suggs. Suggs to Banchero. Swings it to Wagner for the dunk.
That is a terrific job. That entire Magic bench of applauding that effort.
Alors, le Magic d'Orlando, surprise du début de saison. Est-ce un candidat au titre ou juste un feu de paille? C'est impressionnant en ce moment. C'est une série de 7 victoires consécutives avec notamment des succès sur Boston et Denver. Donc, c'est quand même pas rien. Et puis, c'est une deuxième place à l'Est. Le tout sans grosse star. Hein. C'est peut-être dans les équipes les mieux classées. La seule qui n'a pas de méga star. Du coup, tu vas nous présenter, Sacha, le roster du Magic.
Yes. Bah, la plus grosse star de cette équipe, pour le coup, c'est Paolo Banchero, qui était rookie la saison dernière. Donc, ça place un petit peu le contexte de cette équipe du Magic d'Orlando. C'est une des équipes les plus jeunes de la Ligue puisque c'est 24,5 ans en moyenne. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que c'est une équipe, sur les 15-16 joueurs qui vont faire l'effectif principal, il y en a 13 qui sont des premiers tours de draft. Pas forcément toujours très élevés, mais ça veut dire qu'ils ont réussi à trouver des profils qui sont passés un peu sous les radars et qui là se révèlent. Alors, Banchero, la superstar de l'équipe, un grand joueur en devenir, potentiel All-Star de cette équipe-là. Ensuite, obligé de parler de Franz Wagner qui est vraiment son second dans cette équipe pour la partie scoring. Et puis après, c'est beaucoup de mecs qui défendent super dur. Et là-dessus, il faut rendre hommage à Jonathan Isaac, qui est un joueur qui a été conservé depuis des années à Orlando, alors qu'il est passé par les pires blessures. Mais un joueur qui, on le sait, a un potentiel monstrueux. Et aujourd'hui, il a un temps de jeu limité à 14 minutes. Mais sur ces 14 minutes, il est ultra impactant. Après, faut parler également de Jalen Suggs, qui a un profil particulier parce que c'est quelqu'un qui aurait pu percer en football américain et en NBA. Première saison difficile, mais là, c'est devenu un des meilleurs chiens de garde de la défense en NBA. Et franchement, bah, c'est une équipe avec, je trouve, la composante de cette équipe-là, c'est que c'est pas des méga stars, c'est pas des joueurs dont on parle beaucoup, qui sont dans la hype, sont un petit peu dans l'ombre. Et ça fait une équipe de gros chiens de garde avec un futur très prometteur. L'identité de jeu, elle découle du coach qui s'appelle Jamal Mosley, qui est un ancien spécialiste défensif pour l'équipe de Dallas. L'identité est très défensive, tout le monde a envie de jouer, tout le monde joue aussi, parce que c'est une équipe qui responsabilise énormément les jeunes quand il y a des blessures, etc. Et non, franchement, ils sont très agréables à regarder jouer, même si en attaque, ils sont pas ouf. Et la stat qui est intéressante, ils ont un seul joueur qui a plus de 30 ans, c'est Joe Ingles.
Ils sont pas ouf en attaque, mais récemment, il y a eu des gros scores, non ? Ils ont eu des scores offensifs assez importants sur des matchs peut-être un peu...
Oui, mais milieu de la ligue en attaque. C'est pas leur identité, en fait.
Ok. Ils ont essentiellement cette identité défensive dont vous parlez, Sacha. Alors, feu de paille ou candidat au titre, Steve ? Tu y crois au Magic ?
C'est l'un ou l'autre ?
Bah non, ouais, on peut évidemment avoir de la nuance, tu me connais.
Ouais, parce que candidat au titre, non, clairement
et
pas.
Paille non plus.
Et feu de paille, non, parce que je pense que ça va au moins décrocher un play-in.
Alors là, attention, si deuxième tu me le mets en play-in, pour moi c'est un feu de paille. Hein.
Ah, moi je pense qu'il passe un tour même. Pour les...
Vas-y, continue, je t'interromps, mais
ça dépend contre qui tu tombes.
Ça dépend, oui.
C'est-à-dire, tu les vois pas rester dans le haut du classement de la conférence.
Non, je les vois pas finir top 4. Voilà, je les vois pas finir top 4 de la conférence S, même s'il y a des matchs références. On a parlé de la victoire face à Denver, face à Boston, ils ont aussi battu Milwaukee. Ils ont battu peut-être les trois meilleures équipes de la ligue, mais c'est une équipe qui, et on est obligé de faire le parallèle avec les Spurs et Victor Wembanyama, qui donne beaucoup d'espoir à cette équipe de San Antonio, parce que c'est une équipe qui s'est créée il y a 3 ans. Jamal Mosley est arrivé, c'est sa troisième saison. C'est une équipe qui a gagné 22 matchs la première année de Jamal Mosley, et les Spurs ont gagné 22 matchs la saison dernière. Donc il y a eu de la patience, ils ont travaillé avec les mêmes joueurs. Je crois qu'il y a 6 ou 7 joueurs qui sont là depuis l'arrivée de coach Mosley. Et ça me fait penser à une équipe de fac un petit peu, c'est-à-dire jeune, surexcité, beaucoup d'enthousiasme, ça défend, ça a envie de défendre, ça défend haut et fort, et Jamal Mosley qui, pour la petite anecdote, a ramené un truc à Orlando, c'est que dans la salle d'entraînement, il a ramené une grosse cloche. Et c'est-à-dire que dès qu'il y a un mec à l'entraînement qui fait une steals ou qui se jette par terre pour un truc, hop, la cloche sonne et ça se répercute sur les stats parce que c'est une des équipes qui fait le plus d'interceptions.
Je crois que t'aurais entendu la cloche, toi.
La cloche sonne, mais on continue.
Dès qu'il y a une action défensive.
Juste pour signifier.
Exactement. D'accord. Donc c'est vraiment une équipe qui est axée sur ça et qui a les joueurs pour. Maintenant, c'est encore une équipe qui est jeune, donc ils vont faire des erreurs, ils perdent des ballons. Je crois que c'est l'équipe qui est 27e, je crois, en NBA sur les pertes de balles. Ils sont pas très bons à 3 points aussi. Mais c'est pas leur identité de jeu. C'est une équipe où il y a beaucoup de jeux de mouvement en attaque, du jeu sans ballon, des coupes et tout ça. À l'image de Franz Wagner, qui est un des plus grands spécialistes pour moi de la ligue sur les coupes et du jeu sans ballon et sur percuter, il provoque des fautes. Mais c'est une équipe qui empêche de jouer les adversaires. En fait, je crois que c'est l'équipe qui fait le moins shooter les équipes adverses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de deuxième chance. Ça provoque des pertes de balles. Ça joue au bout des 24 secondes, au bout des systèmes. Donc les équipes adverses ont très peu de possession. Maintenant, et avec les Spurs, c'est une des équipes qui n'a pas un garçon à au moins 20 points de moyenne. Il n'y a que les Spurs qui, dans ce cas de figure-là. Dans toutes les autres équipes, tu as au moins un mec qui a plus de 20 points de moyenne. C'est-à-dire que la marque est bien répartie. La seconde unité, le banc de touche, est le deuxième ou troisième plus gros prolifique banc de touche en termes de points marqués. Moi, j'aime bien. C'est une équipe qui a de l'avenir. C'est encore trop tôt aujourd'hui. Ils sont sur une très belle série. Je pense que ça va s'arrêter et ça va se calmer. Mais c'est une équipe qui, pour le futur, travaille bien ensemble et est promis en haut de la conférence S.
Alors, candidat au titre ou feu de paille, Fred ?
Aucun des deux, mais moi, candidat au play-off, oui. Candidat au play-off, je pense qu'ils peuvent terminer 6e et effectivement, dans ce cas de figure, ils pourraient peut-être passer un tour, mais en tous les cas, c'est rafraîchissant cette équipe. Parce qu'il n'y a pas de star. La star, c'est l'équipe, c'est le jeu collectif, c'est la défense, c'est l'agressivité. On sent que c'est des jeunes joueurs. Quand dans ton équipe, les deux leaders, ils ont 21 et 22 ans, tu dis que déjà tu peux construire assez facilement sur eux. Banquero est pas à 20 points, mais pas loin quand même, et Franz Wagner est pas loin non plus, et t'as plein de joueurs de complément. T'as un Cole Anthony qui te sort 30
points
à la fois.
On n'a pas parlé de lui, Cole Anthony.
Vrai joueur de basket, mais sur le même poste, t'as Markel Fultz. Alors lui, tu sais jamais ce qu'il va te faire, parce qu'il est souvent blessé, c'est malheureusement sûr. Pour lui. Il y a Suggs, et il y a Cole Anthony, qui sort du banc en plus, qui est un des candidats assez sérieux au titre de 6e homme. Franchement, j'aime beaucoup cette équipe pour l'énergie dégagée.
Mais tu dis 6e, ça peut pas être la 4e équipe après Boston, Milwaukee, Philadelphie ?
Bah ça va être dur de tenir parce que ils n'ont pas
les Knicks.
Voilà, c'est ça. T'as des équipes qui performent pas comme elles devraient le faire déjà à l'instant T. et elles n'ont pas cette superstar capable de prendre le ballon, même si Banchero est un super joueur et Franz Wagner aussi, hein, c'est des super joueurs en devenir qui ont encore besoin de continuer à travailler. C'est, ils n'ont pas la superstar, il n'y a pas de KD, il n'y a pas un Devin Booker qui vont prendre le ballon, qui vont tuer le match à la fin. Mais par contre, cet esprit collectif, cette volonté défensive, cette agressivité, franchement, moi, je trouve ça hyper rafraîchissant dans cette NBA qui défend plus beaucoup.
Sacha,
moi, je pense qu'ils sont à un gros joueur d'être une certitude, d'être dans ces playoffs et de passer un tour, etc., etc. Moi, j'y crois. Après, tout dépend du tirage et de où ils se placeraient potentiellement en fin de saison. Mais il y a des match-ups sur lesquels, moi, je peux les voir gagner. Si ça rencontre des Pacers ou des choses comme ça, ça va être vraiment la kryptonite de ce genre d'équipe. Parce
Pacers,
que...
ça peut être très, très drôle. Hein, parce que tu as vraiment l'équipe d'attaque à 100% et de l'autre côté, le Magic qui est le troisième rating défensif. Ça peut être sympa.
En fait, si je me projette vers des play-offs, des matchs coup près, je pense que... le fait d'avoir une identité défensive, ça va beaucoup aider cette équipe-là à avoir des repères dans des matchs hyper importants, là où les équipes peuvent se perdre un petit peu en attaque, où l'adresse est plus faible. Et je pense que c'est une identité de jeu, alors toute proportion gardée, qui peut faire un petit peu ce que fait le Heat. C'est-à-dire que voilà, il y a pas les joueurs de fou malade. Enfin, si, il y a Butler,
hein. Jimmy, quand même.
Il y a Bam Adebayo, etc. Mais tu vois, les joueurs qui complètent ça, c'est des joueurs non draftés. Il y a cet esprit, il y a cette culture, et ça les aide vachement parce que ça fait que des joueurs qui passent sous les radars peuvent se distinguer dans ces matchs clés. Et je pense qu'Orlando peut clairement aller sur cette série-là. Je suis hyper d'accord avec Steve, c'est une équipe de NCAA mais qui est ultra organisée, avec un style de jeu qui touche à ce qu'il faut faire en NBA. C'est vraiment très très bien.
Est-ce que j'ai bien entendu
même
ce que j'ai entendu?
Bitadze, je suis hyper d'accord avec Steve. Vraiment.
Non, il a mis de l'eau dans son vin parce qu'il veut revenir dans Basket
Time,
le mec.
Non, pour le coup, je trouve que c'est la comparaison. C'est jeu ultra simple en attaque comme NCAA, aller prendre des paniers faciles, des transitions avec des joueurs qui courent beaucoup. C'est simple et efficace.
Et ça fait des erreurs comme des
voilà. Oui, aussi.
C'est une équipe hyper jeune, donc c'est normal que ça perd. Ballons. Tu parlais des Spurs, moi je les compare par rapport à ça aussi. Comment tu veux conserver des ballons quand tu n'as pas autant d'expérience que les grosses équipes, c'est normal. Et Andrew Ingles, pour moi, c'est intéressant parce qu'il apporte justement cette expérience.
Oui, même s'il flingue la moyenne d'âge par contre.
Ouais, c'est clair. Mais concrètement, il apporte cette expérience, cette sérénité. Et on le voit de temps en temps quand il rentre,
c'est le seul, trentenaire de l'effectif. Ouais. Hein. Et 36 ans.
Honnêtement, aussi la stabilité parce qu'ils n'ont pris que deux, trois joueurs de changement par rapport à l'année dernière. Donc ils continuent sur cette progression, sur cette stabilité. Cette volonté de construire.
Et puis à l'image d'un Jalen Suggs qui a été drafté en cinquième position et qui émerge un petit peu sur le tard, on en attendait plus de Jalen Suggs, mais qui aujourd'hui est un défenseur d'élite. Ils ont drafté Anthony Black à la sixième ou la septième position.
Gros défenseur.
La dernière qui est un gros défenseur, mais qui va être bon d'ici 2-3 ans. Ils ont le temps de construire en fait. Et je suis même pas sûr qu'ils aient envie de faire des trades pour amener des gros joueurs. Ils veulent construire là-dessus. Ouais. Et c'est pour ça que l'expérience.
Est-ce qu'il leur faudra pas un gros joueur à un moment quand même?
Je sais pas. À un moment donné, ça passe par.
Banchero, il va continuer à progresser aussi.
Ça passe pas une superstar forcément.
Non, mais ça passe par aller en play-off, découvrir les play-off, c'est important parce que les mecs, ils ont besoin de jouer des matchs à enjeu, des matchs coupés en play-off. Peut-être qu'un tour de play-off, même si tu élimines au premier tour, c'est de l'expérience en plus. Au moins, on est allé en play-off, on a joué des matchs. Mais cette équipe, c'est une équipe du futur en fait. Et Paolo Banchero n'est pas un scoreur.
Alors pour finir, c'est quoi ses qualités, Banchero?
Paolo Banchero, il peut mettre des points, certes, mais c'est pas Anthony Edwards. C'est pas un scoreur d'élite qui va être à 27 ou 28 points. J'aime beaucoup sa capacité à créer pour les autres. Il est très propre dans le jeu. Il défend dur. C'est pas un glouton en attaque. Il est capable de partager le ballon.
La star de cette équipe, c'est l'équipe en fait.
Exactement.
Parce qu'ils jouent tous ensemble.
Exactement. Et c'est un garçon qui cet été, même si c'était un crash avec Team USA, a côtoyé des joueurs très forts. Donc
il a joué avec l'Italie.
Non, il a pas joué cet été. Il a mis une banane à l'Italie, mais c'est un garçon qui a joué cet été dans le basket Chiba, a appris des choses et qui les retranscrit. C'est une équipe qui a fait des compétitions FIBA. Les frères Wagner sont champions du monde ensemble. Anthony Edwards était là à la Coupe du Monde. Joe Ingles a joué des compétitions FIBA avec l'Australie. Donc c'est une équipe qui est éclectique en fait sur le basket proposé.
Mais est-ce que ça suffit pour gagner en NBA, même si on se projette à 2-3 ans, hein, puisque vous m'avez dit que ça va continuer à progresser? Est-ce qu'aujourd'hui, tu n'as pas forcément besoin d'un joueur hors norme, au moins un dans une équipe?
Je suis moins sûr. Je pense que cet esprit défensif, il dénote un petit peu dans cette NBA moderne, et je pense que ça peut être hyper intéressant. Et effectivement,
parce
il y a des gens tellement
jeunes.
Miami a
quand jeunes, même.
Ils vont loin quand même. Oui, mais je suis d'accord, mais ils vont loin. Et finalement, Jimmy Bucket, est-ce qu'il ne fait pas quasiment les stats de Banchero? Ouais, mais tu vois ce que je veux dire?
Ah, en playoff, c'est
un peu différent. En playoff, c'est différent, mais en même temps, tu sais pas ce qu'il est capable de faire. Booker en playoff.
Mais il est moins bien entouré, je pense, Butler, que ce que t'as aujourd'hui au Magic, par contre. C'est peut-être ça aussi qui peut.
Et puis, qui vous dit que Paolo Banchero, dans 2-3 ans, se transforme pas en go-to-guy d'une équipe aussi? Il est capable de l'être.
Et Franz Wagner, c'est pas dégueu non plus.
Attention à Franz Wagner, c'est mon petit coup de cœur. C'est exceptionnel.
Exceptionnel joueur.
Alors, justement, on va en parler de Franz Wagner et de son frère Moritz, puisqu'on passe à l'Allemagne dans ce spécial Orlando Magic.
Franz Wagner's first take is good for two. Rebound Theis keeps it going, slam it down for two.
This contest.
Bongo backdoor feed, perfect execution by Schroeder.
Mauro low up to Mo Wagner. Mo Wagner. Maybe eating some of those Mo cookies. Franz Wagner, he drives in. Oh. You can count it. Schroeder goes downhill, gets it to the corner. Franz Wagner gets in. Schroeder gets in, he goes fast. I don't think they were ready for that.
Alors, donc, les frères Wagner, Moritz et Franz, champions du monde avec l'Allemagne, cadre d'Orlando et de cette équipe allemande, pardon. On va se projeter sur les JO de Paris 2024, comme on va le faire beaucoup cette saison dans Basket Time. Est-ce qu'ils peuvent rêver au titre olympique? Alors, c'est sûr que sur le papier, ça semble très difficile parce que les Américains vont venir vraiment très, très solides. Mais il y a quand même une équipe très complète. Alors, bien sûr, il y a Dennis Schröder, mais il y en a d'autres, hein, des Timan qui brillent en Euroleague, des Mao Dolo, on a entendu un extrait là. Dans la production sonore, cette équipe elle est complète, elle a de l'expérience, elle connaît le jeu FIBA. Alors pourquoi pas l'imaginer comme candidat, concurrent numéro 1 des States à Paris, Fred?
Alors je sais pas si c'est concurrent numéro 1, mais moi j'ai 4 équipes qui sont, c'est celles qui ont terminé dans le top 4 du dernier mondial. Pour moi, elles sont dans ce panier là. Team USA, je demande à voir parce que. Je demande à voir parce qu'on ne sait pas qui va y aller.
Qu'est-ce qu'il vient de dire ?
Effectivement,
ah oui, d'accord. Tu demandes à voir à quoi ça va ressembler à la fin.
Est-ce que il
veut, on est d'accord, si tout le monde est là, tu ne demandes plus à voir.
Ah, je demande à voir quand même.
Ah ouais.
je suis désolé. C'est quand même du jeu FIBA, c'est des anciens. Hein. C'est. Je demande à voir.
Sur leur simple talent, ils vont pas éclater tout le monde.
Non. Ça n'existe plus.
Éclater, ça n'existe plus. Par contre,
non, mais sur le papier, ils sont bien plus forts, évidemment, mais il faut que ça matche.
Ouais, mais quand
et Joel Embiid va être intégré à ça, logiquement, mais est-ce qu'il va venir déjà? On n'est pas sûr. Et est-ce que son intégration...
S'il vient pas, c'est le champion du monde.
Ouais, mais... les gars, franchement, c'est pas déjà un champion du monde. Il va avoir un petit pépin physique, tu sais quand même qu'il est quand même ultra fragile.
Oui, mais s'il vient pas, parce qu'il est blessé à la rigueur, ça passe.
Oui, mais s'il vient pas, c'est plus ça.
Non, mais moi, c'est pas dans le sens du choix. Je pense que les Ricards ont pris une plus grosse banane que nous, s'il vient pas.
Évidemment, moi, je parlais pas du fait qu'il refuse. Qui viennent pas dans le sens où ils risquent d'être baissés, c'est quand même un joueur fragile qui a quand même des problèmes.
Après Fred, à Tokyo, ils sont quand même champions olympiques, Kevin Durant à lui tout seul quand même.
Non mais d'accord, sauf que est-ce que les équipes étaient autant en place qu'avant? Parce qu'il faut quand même penser que la Serbie n'avait pas Jokic et Misic, il faut penser que le Canada va récupérer Jamal Murray.
Alors reviens à tes quatre candidats, États-Unis, tu demandes à voir, mais bon, les mecs quand même, on est d'accord.
Évidemment, je les mets au-dessus, mais je demande à voir quand même, parce que deuxième je pense que l'opposition est en place. Le deuxième candidat, le Canada, concrètement,
Canada,
on a vu
que
ça jouait dur, sérieux, et que Jamal Murray n'était pas là, donc à voir ce que ça peut donner.
Ils ont pris des carreaux quand même, hein, et c'était très, c'était sur courant alternatif quand même pendant la Coupe du Monde.
Oui, mais justement, ils n'avaient pas de vécu, hein. C'est une équipe qui était un rêve jusque-là, un fantasme, et qui a réussi à montrer des choses quand même.
La Serbie.
Eh bien, je vais mettre la Serbie, bien sûr. La Serbie, ils sont finalistes, ils n'ont pas Jokic, ils n'ont pas Misic. Je me dis que eux aussi, potentiellement, ils peuvent être dangereux. Donc moi je mets l'Allemagne
dans les quatre.
Quasiment à hauteur de ces trois-là qui sont au-dessus.
Ouais. Ok, quasiment à hauteur de ces trois-là. Est-ce qu'il y a un scénario dans lequel ils sont champions olympiques pour toi?
Honnêtement,
pas beaucoup.
Il y a une possibilité peut-être, mais concrètement, je pense que ce sera effectivement Team USA et éventuellement le Canada. Mais
si tu compares à Canada et Serbie, est-ce qu'ils sont plus complets? Est-ce que l'effectif est plus complet?
Non, il n'est pas plus complet, mais ils jouent très bien ensemble. Dennis Schröder, dès qu'il met le maillot de l'Allemagne, on a l'impression que c'est Michael Jordan. Et tous les joueurs à côté de lui, c'est des joueurs qui connaissent le système FIBA, qui jouent l'Euroleague, qui ont cette expérience et qui... C'est un peu l'Orlando Magic finalement. C'est l'équipe qui est le plus fort dans cette équipe justement. C'est la star, c'est l'équipe, c'est pas forcément les joueurs. Et quand t'as Dennis Schröder qui peut arriver à avoir un niveau tellement incroyable dans une compétition internationale, moi je te dis, je les vois au moins médaillables.
Mais Steve, tu les vois où?
Moi, je les vois sur le podium. Je les vois sur le podium parce que c'est une équipe qui est pas vieillissante. Le plus vieux joueur, c'est Daniel Theis et Mao Dolo. Ils ont 31 ans. Tu vois, ils sont pas, c'est pas nous, nos cadres que peuvent être Nico Batum ou Nando De Colo. Ils sont encore en pleine force de l'âge. pour les avoir vus à Manille, athlétiquement, ils regardent tout le monde dans les yeux. C'est-à-dire qu'ils peuvent tenir tous les duels parce qu'ils ont des, les frangins Wagner sont des forts défenseurs. Isaac Bonga, qui est au Bayern Munich, peut défendre sur des ricains en termes d'athlétique. Ils peuvent rivaliser. Maintenant, il y a un petit bémol pour moi. Dennis Schröder, bon, à Toronto, est très bon. Avec l'Allemagne, c'est le leader un petit peu émotionnel de cette équipe-là. Je ne suis pas sûr qu'un garçon comme Andreas Obst soit capable de reproduire ce qu'il a fait à la Coupe du Monde à Manille. Il était sur un nuage hors norme. Les Américains ne l'ont pas respecté. Il a fait le match de sa vie. Ça peut me poser un petit problème là-dessus. Maintenant, la vraie qualité qu'ils ont par rapport à nous, Français, et encore, ils ont deux garçons qui n'ont pas joué, qui est Maxi Kleber, qui est à Dallas parce qu'il a voulu se reposer et tout ça. Non, même si Denis Schröder s'est excusé.
Il a essayé effectivement de trouver des solutions.
Et ils ont Hartenstein qui n'a pas vraiment d'accroche avec l'Allemagne mais qui joue à New York. Eux, ils ont 6 joueurs NBA, Pierrot, qui jouent dans des équipes qui gagnent avec des vrais rôles.
Alors nous, on a
avec
des vrais qui jouent dans des équipes qui perdent.
Nous, on a soit des joueurs qui jouent dans des équipes qui ne gagnent pas un match, soit un joueur qui ne joue pas à New York. Nico Batum est plutôt très bon avec lui dans une équipe qui gagne. Et Rudy Gobert. Nous, on en a deux, en fait. On a deux garçons qui jouent dans des équipes compétitives. Maintenant, les JO, pour moi, c'est plus compétitif qu'une Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'il y a moins d'équipes, il y a 12 équipes, c'est 3 poules de 4. Les deux premiers sont qualifiés.
Tout le monde est au taquet.
Il y a un tournoi, il y a un TQO qui va arriver où vont sortir vraisemblablement. Les tirages au sort a été fait hier. Il y a une poule où il y a la Slovénie et la Grèce. C'est-à-dire qu'il y a une des deux superstars qui va sauter.
Si ça se trouve les deux aussi, hein, parce qu'on anticipe et effectivement leurs poules sont jouables.
Oui, mais
en théorie.
C'est en Grèce, donc c'est ce qui peut se passer parfois en Grèce. Donc ça serait dommage, mais tu sais que Antetokounmpo ou Luka Doncic vont arriver aux Jeux Olympiques. T'as la Lettonie ou le Brésil.
L'Espagne est qualifiée ou pas?
Non, l'Espagne passe un TQO avec la Finlande dans un groupe. Ça devrait pouvoir passer. Donc c'est très compétitif et très compliqué. On sait, comme souvent dans toutes les compétitions, c'est le quart de finale qui décide. Et encore plus au JO, parce que tu passes le quart de finale, après t'as deux matchs pour être médaillable. Mais cette équipe, elle est bien coachée. T'as des mecs qui ont... T'as un alliage de joueurs NBA qui sont bons dans les équipes qui gagnent et un alliage de joueurs Euroleague qui sont bons dans les équipes Euroleague.
Ça jouait comment à la Coupe du Monde là ? C'était quoi le système de jeu ? À quoi ça ressemble cette
équipe ? Dennis Schröder qui était énormément à la création. Beaucoup de jeux en transition parce que Franz Wagner est un avaleur d'espace exceptionnel sur l'open court. Il est grand, il court, il va finir. Et surtout, ils ont 4 soutiers à l'intérieur. Mon garçon qui envoie du bois. Daniel Theis, Mo Wagner, le frangin Wagner, tonton. Lui, s'il va à la Mayoche, j'ai rarement vu un mec comme ça aller à la Mayoche. Le frangin Wagner, ils ont Voigtmann qui a été exceptionnel à la Coupe du Monde, qu'on pensait un petit peu tendre,
parfois,
machin.
Parfois, il est un peu fort, il l'a pas
mais
été.
Mais là, il l'a pas été, et t'as Johannes Thiemann. Alors, ils ont tout en magasin. Maintenant, je pense qu'il y a des équipes qui sont meilleures. Tu me parlais du Canada, mais enfin, Canada, c'est un peu une Team USA bis, en fait.
Oui,
et Team USA, moi, je vois USA 1, Canada 2, et éventuellement France ou Allemagne 3.
Alors, justement, France-Allemagne, aujourd'hui, là, si on se projette toujours sur les JO, non, mais rigole pas, Fred. Aujourd'hui, ils sont devant nous, non, Sacha ?
Ben, quand c'est champion du monde.
Regarde la tête qu'il fait déjà.
Bah, moi, je trouve que vous êtes très élogieux envers l'Allemagne, mais.
Ils sont champions du monde. C'est pour ça qu'on est
médaillé de bronze à l'Euro l'année
d'avant. Non, mais je rebondis sur deux choses. Je pense effectivement que l'adversité des JO, c'est pas la même que celle de la Coupe du Monde. Et je pense que l'Allemagne, il y a aussi le facteur Dennis Schröder qui, en fait, joue son image de joueur de basket à chaque fois qu'il met le maillot de l'Allemagne, concrètement. Moi, je trouve que c'est un mec qui a sauvé sa carrière via l'équipe d'Allemagne. C'est ce qui fait qu'il y a eu ce truc-là.
Il a 17-7 à Toronto, je trouve un petit peu dur.
À Toronto, avant Toronto, c'est pas ça.
D'accord, mais juste pour.
Ouais, mais l'Allemagne.
Époque Atlanta, il est bon.
Oui, époque Atlanta. Mais en fait, tout ce qui se passe après Atlanta et avant Toronto, c'est catastrophique pour Dennis Schröder.
Oui, mais c'est pas le meilleur titulaire. À Toronto, il est titulaire. À Atlanta, il était titulaire. Quand il arrive aux Lakers, c'est pareil. Quand tu joues avec LeBron et Anthony Davis, t'attends pas.
Il a été titulaire, je crois que c'était à Boston aussi. Enfin, il y a eu des paris qui ont été faits. Il s'est planté, etc. Et en fait, c'était son chemin vers la rédemption. Là où, en fait, je pense que l'Allemagne, maintenant, c'est plus une nation qu'on peut sous-estimer comme on l'a déjà fait. Je crois qu'on les avait déjà joués en poule sur une Coupe du Monde, mais il y a de ça des années, hein, pas celle-ci.
Et on les a perdus.
On perdait contre en poule, ils n'avaient pas ce niveau-là. Je pense que c'est une équipe qui a été sous-estimée, qui maintenant est là pour une raison. Mais je pense qu'il y a les moyens que la France puisse battre une équipe comme ça.
Mais la grosse différence entre eux et nous, c'est que c'est une équipe qui existe, qui fonctionne, qui a confiance.
Cherche pas du tout.
Qui sait exactement où elle va. Nous on n'est qu'un potentiel. Nous, il y a tout à faire. On ne sait même pas si ça va fonctionner. On ne sait même pas si on va sortir des poules.
Il y a plus l'étiquette surprise pour les Allemands. Aujourd'hui, ils vont arriver au JO avec le titre de champion du monde.
Préfères ne plus être la surprise ou partir de zéro.
D'accord, mais de deux, ils n'ont pas un énorme passif olympique. Leur meilleure place, c'est une 7e place au JO en 92 à Barcelone. Ouais, après, à paquet de fois, ils ne se sont pas qualifiés.
Si demain, on se retrouve sur un quart de finale France-Allemagne. Qui est ton favori, toi, Steve?
Là, à Paris.
Ouais.
La France.
La France est favorite.
On est chez nous.
Face à cette équipe d'Allemagne.
Chez nous, j'ose espérer qu'à l'Accor Arena, il y ait 16 000 personnes pour nous, Pierrot. Ça peut faire la diff.
La France, on est cette équipe-là. C'est-à-dire que là, on nous attend pas, on sait répondre présent. Sinon, on battrait jamais des teams
USA. Si tu t'arrêtes sur le résultat de la Coupe du Monde, l'Allemagne est à 12 longueurs devant nous.
Oui.
Si tu regardes joueur par joueur, ils sont pas si loin que ça, nos Français quand même.
Pierrot. Oui, mais si nous, on avait fait une mauvaise Coupe du Monde avec la nouvelle génération, c'est-à-dire qu'il y avait déjà une première compétition d'importance avec les nouveaux joueurs et peut-être la nouvelle idée de jeu que va mettre en place Vincent Collet, je dirais oui. Mais nous, on a fait le reset après la Coupe du Monde. C'est ça le problème.
On l'a pas encore fait d'ailleurs, le reset.
On l'a même pas encore fait. Et quand tu vois que Victor Wembanyama, il va avoir besoin de temps. C'est normal, il est très jeune. Déjà pour s'imposer aux Spurs, en tout cas pour avoir une influence sur les résultats de l'équipe et compagnie. Moi, je sais pas en combien de matchs il va falloir avec l'équipe de France pour qu'il ait un impact.
Moi juste pour dire aussi, il faut se rappeler que l'Allemagne a fait un plan de carrière pour avancer. Pour la Coupe du Monde, pour avancer sur les JO, ça fait plusieurs années qu'ils travaillent ensemble, ils sont ensemble, ils travaillent, ils ont créé une équipe, ils ont créé une ossature. Moi, je trouve qu'ils sont bien, bien en avance par rapport à nous, et je suis désolé, en termes d'individus, c'est pas si mal que ça.
C'est un Basket Time spécial Orlando Magic. On a donc fait un petit détour par l'Allemagne à cause des frères Wagner, mais on va retourner à Orlando, en Floride, tout de suite. Five, now down to four. Got it! The Magic are marching onto the second round of these playoffs. That was the first dunk for Howard, who easily leads the league in dunks. Evans knocked it away. Turkoglu gets it back to Mo.
Michael Petras throws it down. And the lob for Howard. That was one angry slam. Howard at the buzzer. Dwight Howard climbs through the roof.
Turkoglu on the deck. Here's Turkoglu for the win. Oliver! That's the winner for the Magic! Hino Turkoglu!
Alors, dans cette partie historique, nous allons parler d'une période qui aurait pu changer toute l'histoire de la franchise d'Orlando, le Magic de Dwight Howard. Et pour en parler, nous accueillons avec grand plaisir Mike Pietrus, qui a fait partie de cette équipe avec Dwight. Salut Mike!
Salut les gars, vous allez bien?
Salut Mike. Salut
Mike. Mike, on va rafraîchir. Tu vas nous rafraîchir la mémoire, on va raviver des vieux souvenirs. Je pense assez agréable quand même. Rappelons que Dwight Howard, drafté en 2004, va redonner un élan incroyable à cette franchise qui avait fait une finale déjà en 95. Et donc, en 2009, 5 ans après sa draft, il retourne en finale, Sacha.
Ouais, c'est ça. Bah, Dwight Howard qui était un peu la résurrection du Shaq. Hein, c'est une espèce d'héritage qui s'est prolongé. Le Magic qui a marché sur la saison régulière pendant une grande partie de la saison jusqu'à la blessure de Jameer Nelson, qui est arrivé avec une équipe qui est construite avec des joueurs très intéressant, Rafael Halston qui donc
Skip to Milo,
ouais, qui sera le backup justement de Jameer Nelson, qui va beaucoup jouer cette saison-là. On pense effectivement à Edo Turkoglu également, Rashard Lewis, mais bon, Dwight Howard qui est deuxième au titre MVP cette saison-là, qui marche sur toute la ligue. Moi, j'ai personnellement le joueur qui m'a le plus traumatisé dans cette époque-là. Enfin, c'est trop facile pour lui ce qu'il fait. Il roule sur toutes les équipes, que ce soit en attaque ou en défense. Jameer Nelson, c'est la parfaite rampe de lancement pour ce joueur-là. Et c'est surtout cette équipe qui nous a privé d'un duel LeBron James-Kobe Bryant en finale NBA. Je pense que beaucoup voulaient voir, mais franchement, c'est mérité parce que vu la façon dont ils vont sortir Cleveland, qui était quand même leader de saison régulière, c'est très très fort. Et puis,
avec 66 victoires à l'époque, hein. C'est quand même monstrueux. Hein.
Après, je pense qu'Orlando, si Nelson se blesse pas, clairement, il roule sur la saison régulière ils finissent numéro 1. Et voilà, c'est la saison où en fait, il réécrit l'histoire de ce qu'ils avaient vécu en 95-96. Ils vont en finale, ils vont gagner leur premier match de finale à ce moment-là. Nelson revient d'ailleurs pendant les finales. Ce sera pas suffisant parce que en face, les Lakers, c'est quand même très 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 solide. Et je pense que oui, on peut parler aussi de Mike Pietrus qui a eu ce rôle de défendre sur Kobe. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a eu un morceau de Lil Wayne qui a été fait sur Kobe Bryant où on reprend les mots de Mike Pietrus qui parle de Kobe. Et je trouve que ça représente bien parce que quand il le décrit, c'est un passage mythique de la chanson et ça représente bien ce qu'était défendre sur Kobe. Et donc, je suis très content que Mike soit là pour en parler aussi.
Alors, il va nous parler de Kobe, Mike. D'abord, dis-nous un mot sur cette équipe que toi tu intègres en 2008. C'est-à-dire qu'elle a déjà Elle a déjà un vécu, elle est déjà forte quand tu arrives, Mike.
Bon, elle a déjà une histoire. Je dirais que quand je suis arrivé dans le club, le but, c'était clairement avec Dwight Howard qui était en pleine forme. C'était le but, c'était d'aller en finale NBA et de créer quelque chose. Et on avait en tête ce duo Penny-Hardaway, Shaquille O'Neal, avec Michael Jordan qui prend la balle sur Nick Anderson. Donc on voulait répéter un peu l'histoire du club en faisant la même chose qu'en 95. Et puis on s'est retrouvé en 2009-2010 avec une très forte équipe d'Orlando Magic. On était complet. Notre âme, c'était focaliser Dwight à l'intérieur. Et puis avoir ses snipers autour, c'était comme protéger un président. Et puis nous, on était là pour tirer en cas d'urgence.
Écoute, parle-nous de la finale, Mike. Est-ce que tu as des regrets sur cette finale? Parce que le score, c'est 4-1. C'est le premier match que la franchise gagne dans une finale NBA.
Ouais, peut-être. Ils avaient pris 4-0 en 95.
Exactement. Peut-être il y avait un manque d'expérience, mais est-ce que c'était pas juste les Lakers qui étaient trop forts globalement?
Non, je pense que les Lakers, ils étaient forts. Clairement, ils étaient forts. Mais je pense qu'on pouvait les battre cette année-là. Je pense que, je ne sais pas si vous avez regardé les vidéos à l'époque, en 2009, notre deuxième match, où Cortinelli, il met la balle à la dernière minute, mais Gasol, au fait, il met sa main dans le panier pour retirer la balle. Et donc, je pense que là, ça aurait pu tout jouer avec notre confiance.
Ah, vous êtes fait voler, c'est ça que tu veux dire?
Non, on ne s'est pas fait voler. Mais à l'époque, il n'y avait pas, le système de vidéo où on pouvait vérifier chaque action. Donc je pense que les Lakers étaient vraiment forts parce qu'ils avaient les Bynum à l'intérieur, Gasol, ils avaient le Black Mamba, Derek Fisher. Je pense qu'ils étaient vraiment au-dessus de nous et je pense que ça a été une belle expérience. Nous, notre but, c'était de faire en sorte que ce 2009-2010 soit historique pour la NBA. Je dis pourquoi, c'est-à-dire que tout le monde voulait voir Kobe contre LeBron. Et donc, nous, notre but, c'était d'empêcher ce moment.
Et donc, c'est ce que vous avez fait en finale de conférence, donc en sortant les Cavs de LeBron.
Ouais, c'est ça qu'on a fait. LeBron, c'était le meilleur joueur du monde. Moi, je voulais m'affronter au meilleur joueur du monde. Je me suis dit, ça passe ou ça casse, je vais tenter quand même. Et j'ai pas peur de l'affronter. Donc, je le regardais bien dans les yeux.
Mike, c'est qui le plus dur à défendre, LeBron ou Kobe?
Ah, le plus dur, c'est Kobe Bryant.
C'est Kobe.
Ah, le plus dur, c'est Kobe. C'est-à-dire que quand il a la balle en main, il a 150 façons de scorer. Et donc, le plus important, c'est de se concentrer de la première action à la 150e. Mais c'est vraiment, c'est vraiment dur.
LeBron, c'est un peu plus brut de décoffrage. C'est un peu la puissance.
Ouais, c'est un peu la puissance. C'est comme si vous avez un TGV qui vous arrive en face. Donc, il est vraiment dur à arrêter, surtout sur sa main droite. Et puis, je pense qu'il a vachement progressé ces quelques dernières années où il n'a plus fait confiance à son shoot. On voit bien que LeBron, il est plus percutant sur le drive. Après, il a l'âge aussi. Mais je pense que c'est la longévité de LeBron James, c'est exemplaire pour tous les joueurs qui rêvent d'NBA.
Et alors, quand tu défends sur un Kobe en finale NBA, comment ça se passe sur le terrain? Est-ce que ça parle beaucoup? Est-ce qu'ils essayent de te déstabiliser? Est-ce qu'il y a du trash-talking?
Non, il n'y a pas de trash-talking. Et au fait, après le match, le troisième match à Orlando... Parce que Kobe Bryant, c'est quand même un très, très grand joueur, c'est une légende. Mais quand vous voyez ces statistiques en play-off finale NBA, c'était 8 sur 40 au shoot ou 9 sur 36.
C'était une belle croquette, quand même.
Non, mais c'était un excellent défenseur, belle croquette, Mike,
mais
aussi.
Moi, ça faisait plaisir de le défendre parce que vous l'aviez à la télé, moi, je l'avais en face de moi. Et je voyais tout le talent, je voyais la légende se défiler devant mes yeux, tout en essayant de l'arrêter. Il y a des fois, je l'ai arrêté, mais il y a des fois, j'ai pris cher comme tout le monde. Mais ça fait partie de la légende de Kobe Bryant. Et puis, à la fin du match, il vient me voir.
C'est partie de la légende de Mike Pietrus aussi, d'avoir défendu sur Kobe, tu sais.
Oui, à la fin du match, il vient me voir. Il me dit, mais tu commences à me faire chier. Comment ça se fait? Tu connais tous mes moves. Ben, je lui dis, ben, écoute, tu scores 60 points, tu es Kobe Bryant, ce qui est normal. Mais tu scores 25, le crédit, tout est pour moi. Après, il a rigolé et puis on est parti comme ça.
Et quoi. Comment ça se fait alors que tu connaissais tous ces moves? Est-ce que tu l'as beaucoup étudié avant la finale? Parce que là, on rigole, c'est sur un ton léger, mais c'est très sérieux tout ça. Est-ce que tu avais beaucoup bossé ton Kobe Bryant?
Au fait, cette année-là, on avait Philly, on avait LeBron, et en finale, on ne savait pas qui en allait jouer. Donc, je suis tombé sur Kobe Bryant. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans les playoffs, c'est-à-dire que quand on a joué Cleveland, j'ai dit au coach, je n'ai pas besoin de stratégie d'équipe, laisse-le-moi, je m'en charge.
et vous, vous allez vous adapter à ma défense. En fait, c'est comme ça qu'on sait qu'on a continué à avancer.
Et Stan Van Gundy, t'as dit OK, Mike ?
Mike, oui, tu as
Stan
raison.
Stan Van Gundy m'a dit OK.
Ça l'arrangeait.
Non, il m'a dit OK parce que personne ne savait comment l'arrêter. Je ne peux pas dire qu'il n'y a que moi qui.
Ah, c'est sûr que ce n'est pas Turkoglu qui allait défendre, Mike. Hein.
Ouais, mais Turkoglu, il était là pour distribuer les caviars. Donc moi, mon but c'était de me focaliser, mais je me suis dit bon, je vais tenter la défense, mais il faut pas que les mecs ils me regardent qu'en défense aussi. Donc c'est pour ça que après j'ai activé mes shoots à 3 points, et puis c'est pour ça que je pense que Orlando, ils ont fait une belle année cette année-là, et puis c'est dommage.
T'as encore des contacts avec tous ces mecs là, notamment Turkoglu, Dwight Howard, Jamir Nelson, compagnie.
Ben Dwight, je l'ai texté il y a 2 jours.
Tu vas aller le voir à Taïwan ou quoi?
Non, parce que pour moi, c'est le plus important pour lui, c'est pas d'aller à Taïwan. Pour moi, le plus important pour lui, comme il a fait une pige à Golden State, après, il voulait aller à Boston. Donc, je lui ai dit que c'est le plus important, c'est de te concentrer sur les 3 prochaines années parce que tu as le Hall of Fame qui va arriver. Et donc, beaucoup de personnes se posent la question si tu as un Hall of Fame ou pas. Donc, c'est un peu, je lui ai parlé un peu de nettoyer son image un peu par rapport à tout ce qu'il a en dehors du terrain.
Arrêtez avec l'histoire de meuf, hein, surtout.
Ouais, après, chacun fait comme il veut.
Mais il était comment? Parce que Dwight Howard, on l'a vu ultra dominant aussi, parce qu'on parle de Kobe, mais on va parler de Dwight Howard. Moi, je suis un pivot, donc je vais m'attarder sur ceux qui m'ont impressionné. Comment il était vraiment au jour le jour, physiquement? Comment il dominait autant, en fait?
Ben c'était impressionnant de le voir à la musculation, en fait.
Mec, il a des épaules.
Et ouais, il a vraiment des épaules, on dirait des cuisses de dinde. On dirait que c'est, quand ouais, chaque fois tu vois des épaules, on dirait les dindes pour Thanksgiving qui te regardent, mais au fait, tu vois Dwight Howard. Mais il était impressionnant, parce qu'il venait très tôt le matin, il partait très tôt le soir. Donc, au fait, il nous motivait à nous entraîner, la muscu, tout ça, et donc c'était vraiment un leader. Et puis, bon, je pense que les deux parties ont un peu paniqué, c'est-à-dire que je me rappelle qu'on a fait le transfert pour Vince Carter. On n'était pas si mal que ça en 2011. Mais après, ils ont voulu faire exploser l'équipe. Et depuis ce jour-là, Dwight n'a jamais été Dwight.
Non. Alors ça, justement, on va en parler. Juste un mot d'abord. Est-ce que toi, tu dirais que c'est le meilleur pivot avec qui tu es joué? En tout cas, un mec unique.
Je dirais, j'ai pas joué avec des meilleurs joueurs. J'ai plutôt joué avec des copains. C'est ce qui sont venus aujourd'hui de la famille. Donc moi, j'ai apprécié chaque joueur. Vous savez, la NBA, c'est une famille. Donc moi, j'ai apprécié chaque joueur. Hein. Même pas en NBA, même à une équipe de France avec Stéphane Bourg aussi, c'est quelqu'un que quand je le vois à la télé, qui fait je trouve ça impressionnant.
Donc tu veux pas dire que Dwight est le meilleur parce que tu as joué avec Fred aussi, c'est pour ça.
Oui, j'ai joué avec Fred. Non, mais j'ai joué avec Fred à l'époque, j'étais jeune, ma première sélection en Turquie. Donc, non, mais vous avez des mecs qui sont sur le plateau. Fred Weiss, il y a Stéphane Bros, c'est des mecs qui ont quand même eu un impact dans le basket français qu'on ne met pas en avant. Donc aujourd'hui, c'est ce que ce serait notre but de mettre en avant toute l'histoire du basket français.
D'ailleurs, ils sont dans les légendes de la LNB, on peut le signaler. Je vous félicite. Oui. Au passage, Steve.
Non, Mike, ici, il y a Pierre Dorian, qui est journaliste, qui présente l'émission. Pierre Dorian est fan de Baron Davis.
C'est vrai.
Mike, je t'en veux parce que tu as joué avec Baron Davis et vous avez tapé les Mavs sur un exploit. Donc il faut que tu dises à Pierre Dorian comment était Baron Davis, quel joueur c'était, quel mec c'était, parce qu'il en kiffe sur Baron Davis.
Baron Davis, c'était un joueur très explosif. C'était un joueur, c'était le meneur leader de la NBA dans les années 2000 à 2010. Et je pense que tout son parcours à UCLA, il faisait rêver beaucoup de personnes. Moi aussi, il m'a fait rêver. Donc moi, jouer avec lui, c'était un plaisir. Il te rendait la tâche plus facile. Il te disait, bon, place-toi là, donc tu auras la balle. Et si tu ne te places pas, bon, il te dit, tu ne l'auras pas la prochaine fois. Donc c'est des joueurs emblématiques comme ça que j'ai pris plaisir à jouer avec
eux. T'as Thomas dessus, Baron Davis, t'as Thomas dessus déjà ou pas?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Mais pas du tout. Mais qu'on a battu Dallas à l'époque, on avait un coach qui était exemplaire, c'était Don Nelson.
Oui.
Et donc tout était beau en fait, tout était parfait. C'est-à-dire que on arrivait à l'entraînement, une anecdote, c'est-à-dire on arrivait à l'entraînement. Et il y avait le chien qui était là, il jouait avec les ballons. Et donc, comme le coach, il voulait aller promener son chien, il nous disait, bon, les gars, un lancer foin et rentrez chez vous. Comme ça, le chien, je peux aller le promener. Et donc, toute l'année, on faisait que ça, en fait. Après, le jour où on a tapé Dallas, on s'est dit, bon, les gars, le Don Nelson nous a dit, bon, les gars, je les ai coachés, c'est mon équipe, on va les battre. Et au fait, ils ne pouvaient pas nous jouer. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'on a eu un impact, mais quand je vois le We Believe 2, j'ai l'impression de nous voir avec moins de talent et avec les Stephen Curry qui ont gagné plus de titres.
Oui.
Donc aujourd'hui, moi, ça me fait plaisir de voir ce sort de basket. Parce qu'à l'époque, quand nous, on jouait ce style de basket, beaucoup de gens en Europe, en NBA, ils ont dit bon, ils ne gagneront jamais de titre avec ce style de jeu. Ben, tout le monde l'a adopté.
Mais c'est vrai que c'est un joueur très spectaculaire. Tu dis que j'adore, c'est la vérité. Parce que voilà, bon, Golden State, à l'époque, moi, je n'avais pas d'affinité particulière. Mais ce mec-là, il te faisait kiffer. Si t'aimes un peu le sport, je te dis même pas le basket en général.
Il y a mis un Thomas sur André Kirilenko.
Hyper juteux, hyper tonique, et puis très spectaculaire de toute façon dans tous ses moves. Et alors là, on est sur l'époque Golden State. On va revenir au Magic d'Orlando. Dernier mot quand même sur cette partie historique. Comment vous expliquez le déclin aussi précoce de Dwight Howard, qui était un mec peut-être amené à régner sur la NBA beaucoup plus longtemps.
Oui,
il a des bons débuts à Houston.
Il a régné sur la NBA.
Et puis d'un coup, ça s'est arrêté.
Mais le problème, c'est que Dwight Howard, quand il est à Orlando, c'est l'option numéro une. On joue tout pour lui. C'est un monstre. Il est 3 fois défenseur de l'année. Il est 8 fois All-Star. Faut pas oublier que la Redeem Team en 2008, il fait partie de cette Team USA avec ce match fantastique contre les Espagnols. C'est un rebondeur contreur hors norme. Il a toujours été l'option numéro une. Quand il quitte Orlando, après, il va aux Lakers, il est obligé de jouer avec Kobe Bryant, donc c'est plus l'option numéro une. Il va à Houston, il joue avec James Harden, c'est plus l'option numéro une. C'est pas, les ballons ne passent plus par lui. Donc il est là aussi un peu le déclin de Dwight Howard.
Mais il n'y a pas que ça aussi, il y a le fait aussi que c'est un joueur tellement dominant physiquement qu'à un moment, tu déclines un peu physiquement et donc c'est plus difficile de s'adapter. Parce que ce mec, il faut se rappeler quand même qu'il a gagné un concours de dunk en jouant Superman. C'était un mec qui sautait comme un animal et forcément, il y en a d'autres. Il y a plein de cas quand même en NBA où des mecs dominants physiquement ont dominé la NBA, mais dès qu'ils l'ont été un peu moins, ils ont eu du mal à trouver des solutions pour changer
puis,
ça.
Et puis les mains pleines de pouces parfois au lancer franc. Mike, il a envoyé des briquettes au lancer franc, Dwight.
Ouais, mais c'est comme Shaq aussi.
Oui.
Il était moins pire que Shaq, non?
Je l'ai vu faire des trucs, il ne touchait pas le panier hein, quand même.
Ouais,
non, mais de temps en temps, bon, ça arrive de temps en temps.
Ça arrive à tout le monde, Mike.
Mike, tu t'es jamais arrivé, toi, de ne pas toucher le panier.
Si, ça m'est arrivé aussi. Hein. Moi, ça m'est arrivé de faire des airballs à 3 points. Je n'ai jamais été parfait. Moi, mon but, c'était de jouer avec le sourire parce que je savais que une carrière, ça va tellement vite et que ça fait 10 ans que j'ai quitté la NBA. Et donc, moi, c'était pour prendre le plaisir sur le terrain, sans me prendre la tête. Et puis, ça a été toujours mon go-to, c'est-à-dire one life to live, enjoy basketball. Et puis, on verra par la suite.
Tiens, oui, Sacha, vas-y.
Ouais, justement, sur Dwight Howard, ce qui a pu aussi le pousser vers ce déclin, c'est qu'il le disait à l'époque, il avait une hygiène de vie qui était désastreuse. Alors, Mike nous dit qu'il était bien à la salle, etc. Mais apparemment, dans ce qu'il mangeait, c'était vraiment n'importe quoi. C'était fast-food et bonbons tous les jours. Il était vraiment comme un gamin. Et il y a aussi un truc qui, je trouve, a été symptomatique dans son déclin. C'est à un moment donné, c'était la mode de faire des camps d'été avec Hakeem Olajuwon. Tout le monde l'avait fait, Kobe l'avait fait quelques années avant.
Il s'est payé $50,000 à Kim d'ailleurs.
Et tu sais, ça avait ajouté une belle palette à Kobe. Hein. On voyait qu'ils s'en servaient, etc. Et ils avaient fait la même chose avec Dwight. Et franchement, quand vous voyez le début de saison de Dwight après Hakeem Olajuwon, je vous jure que on lui a mis en tête des choses. De prendre des shoots avec la planche en fadeaway, des trucs comme ça. Tu vois le début de saison, tu dis non, mais en fait, faut pas du tout qu'il fasse ça, quoi. Et je pense qu'à un moment donné, il savait pas vraiment ce qu'il voulait en faire. Et ils l'ont emmené vers une voie un petit peu floue.
Mais est-ce qu'il a pas voulu suivre aussi la tendance NBA?
Peut-être.
Des pivots qui font autre chose.
Oui, oui.
Après, le jeu NBA a évolué.
Mais lui, il a voulu suivre ça.
On est au début de ça, je pense. Je pense qu'on est au début de ça.
Mais à l'époque où il joue ballon intérieur sur du post-up, et on le sait faire. Mais sauf que la NBA a tellement évolué sur le tir à 3 points et que les grands aujourd'hui savaient tout faire. Peut-être que lui, s'est dit, si je veux continuer à exister dans cette ligue, il faut peut-être que je me réinvente aussi.
Mais il s'est peut-être réinventé trop tôt. Ouais. Je suis d'accord avec ça.
Pour l'anecdote, la franchise qu'il relance, c'est Atlanta, parce que c'est là où il refait une bonne saison qui lui permet de retrouver des clubs. À l'intersaison, il dit à Atlanta, je pense que je vais commencer à tirer à 3 points. Le lendemain, il se fait virer d'Atlanta.
Pour l'anecdote. Mike, dis-nous juste un mot pour terminer de l'équipe de France, puisque tu es un amoureux de basket, tu suis tout ça.
Je vais terminer avec Dwight Howard. Déjà, ça n'a rien à voir avec le Olajuwon, parce que des joueurs, on peut s'entraîner et essayer d'améliorer son geste. Mais je pense que vraiment, ce qui l'a perturbé, c'était la Mamba mentality. C'est dès qu'il est arrivé aux Lakers où il a perdu tout son basket et puis il est parti à Houston. Ça n'a jamais été le même joueur. Alors qu'Orlando, on lui filait les clés de la maison. On allait lui nommer une rue à son nom. Et puis là, il a voulu partir pour diverses raisons que moi je connais, mais je ne parlerai pas à la radio. Et puis voilà, ça a été comme ça.
Bon, voilà, on a fait le tour pour Dwight Howard. Merci beaucoup, Mike. Et juste, est-ce que tu es confiant pour les Bleus, là, pour
mais
les
moi,
JO?
j'ai écouté Fred. Moi, je pense qu'il va falloir changer le système. Je pense que le système n'est pas adapté aux joueurs qu'on a sur le terrain. C'est-à-dire que...
Oui, mais est-ce qu'on en est capable, Mike? C'est ça le problème.
Est-ce qu'on est capable?
Je suis d'accord avec toi, sauf que pour l'instant, on ne m'a pas donné de preuve de cette capacité.
Pour l'instant, moi, quand je regarde l'Allemagne jouer, l'Allemagne, ils ont produit un jeu très européen que Fred jouait à l'époque, c'était à l'ancienne. Et donc, nous, on n'a pas encore ce jeu. C'est-à-dire qu'on a des pivots qui ne sont pas adaptés au bon système. Donc, il va falloir trouver tout un système et pour pouvoir bien intégrer Victor Wembanyama l'été prochain, parce qu'il va être très attendu en France, à Paris. Et donc, lui, il va vouloir montrer qu'il peut mettre la France sur son dos. Donc, c'est étudier le système pour le mettre en avant et toute cette équipe pour qu'on puisse pas être ridicule l'été prochain, quoi.
Mike Pietrus, donc, dans Basket Time sur RMC. C'était un spécial Orlando Magic. On va finir avec le quiz. Alors, la question, c'est est-ce que Mike, tu as envie de rester avec nous pour le quiz? Est-ce que tu as d'autres choses à faire? Tu restes avec nous? Allez, c'est parti.
Mike,
j'ai pas trop coupé les cheveux en quatre. C'est parti là en premier, c'est parti chez Sting.
Ouais, comme chaque semaine, c'est parti.
C'est parti là-bas en premier.
Et là, t'es après ou pas?
C'est Alex.
Le roi des corvères ménagères.
Ouais, exactement. C'est plus trash que ça, hein. C'est plus violent.
Fuck you.
Bah, tu te rapproches.
Asshole, son of a bitch.
I lock that shit up, boy. Fermez sa gueule à cette merde.
Tu commences à sortir un process qui croit après un titre, ils sont
nuls. Tu peux me laisser parler?
Alors, c'est un quiz spécial Orlando Magic.
Ah, voilà. Bizarre ça.
Spécial Orlando Magic. Et donc, nous allons faire des équipes.
Pourquoi il y a la musique d'Harry Potter?
Vous allez comprendre.
Magic.
Fred, on va te mettre avec Mike puisque vous avez été coéquipier. Okay,
avec plaisir.
Sacha et Steve, vous allez pouvoir cohabiter ou vous allez vous battre? C'est chaud.
C'est un duo dynamique.
Ah, c'est fait exprès.
J'ai foi en ce duo.
Nous, c'est le contraire. On n'est pas duo dynamique.
Allez, on va se dépêcher parce que j'ai beaucoup de questions aujourd'hui. Alors, pour démarrer, on va tester votre culture générale. Donc, c'est deux, trois questions sur les magiciens, bien sûr, puisqu'on parle du Orlando Magic. Donc, rien à voir avec le basket. Vous êtes prêts?
Oui.
Allez, c'est parti. Me regarde, Fred, il a envie de me buter. Donc,
Mike, c'est rapidité, là. Faut envoyer,
dans Le Seigneur des Anneaux. Comment s'appelle l'autre, le méchant, celui qui s'est allié avec Sauron et qui combat la communauté de l'anneau, Saruman?
Ah oui.
Excellent, Fred.
Mike, tu l'as vu, le Seigneur des Anneaux?
Ouais, mais il a joué.
Non,
dedans,
je regarde,
Fred,
en fait, je regarde pas de film, en
fait. Mike, il regarde pas de film.
Non, bah, à l'époque, je regardais, le seul film que je regardais, c'est mon actrice préférée, c'était Clara Morgan. Après, je sais pas.
C'est magique, mais c'est pas sûr qu'il y ait des questions sur Clara Morgan.
Après, elle faisait aussi des tours de magie. Hein.
Oui, elle faisait disparaître des trucs, Clara Morgan. Et
réapparaître. Allez, alors, bah, écoute, tes deux prochaines questions sont peut-être pas pour toi. Quel prestidigitateur est considéré comme le roi de l'évasion?
David Copperfield.
Non, pas Copperfield, le roi de l'évasion.
Houdini.
Houdini, il est là, Fred. Fredo, tu prends de l'avance. Et dernière question, magie, prestidigitation, vous allez me dire...
Ajax.
Qui Sylvain parle Mirouf. Aux côtés de Denise Fabre.
Je vous demande d'attendre quelques secondes, Alissa.
Garcimore.
Bien sûr.
On va l'écouter deux secondes comme Garcimore. Faites-moi plaisir.
C'est une petite balle. Alors la petite balle, ouvre la main droite. Non, la droite.
Ben, la droite, c'est
ah
ça
ouais. Non, non, c'est ça. Bon, ouvre, ferme la main.
Oui.
Parce que pour moi, c'était la gauche. Bon, alors maintenant, j'ai pris une autre balle.
Exceptionnel. Hein,
oui. Regarde bien.
Oui.
Et j'ai la main dans la pouce.
Oui.
Il est fait comme ça, passe, ouvre doucement, doucement, ouvre doucement. Ouais. Les deux balles, ils sont là.
C'était incroyable, ah, ça, quand même, Garcimore. Hein. Toi, tu étais trop jeune, Sacha, mais
ouais.
C'était, on pourrait plus faire ça à la télé aujourd'hui. Un mec qui a un accent à couper au couteau.
Qui réussit un
qui
tour sur quatre.
Tout le temps,
Mike qui vient de partir, il me dit que finalement, ça n'intéresse pas le jeu.
Allez, on va passer au basket. Le score est de 2 à 1 pour l'équipe Fred Mike contre Stephen Sacha. On enchaîne avec un vrai ou faux sur Grand Hill, messieurs, dames.
Waouh, c'est Grand Hill.
Oui, c'est lui.
Grand Hill boit Sprite?
Évidemment, Grand Hill boit toujours Sprite. Alors, si toi aussi tu veux arriver un jour jusqu'en NBA, tu sais ce qu'il te reste à faire. Entraîne-toi.
Sprite, ça désaltère et c'est déjà pas mal.
Alors, je vais pas vous demander s'il boit du Sprite, mais c'était pour le...
Entraîne-toi plutôt que de boire du Sprite.
Voilà, entraîne-toi. C'était la pub qui avait marqué cartonné, aussi ouais. Cette époque. Hein.
Il prend un énorme stop sur le cercle.
Exactement. Ouais. Grand-il donc lui aussi figure du Orlando Magic. Donc c'est un vrai faux. On va faire chacun votre tour, ok?
Par équipe ou par individu?
Non, par individu. Fred, on va commencer avec toi. Vrai ou faux, sa mère est championne olympique de volley?
C'est vrai.
C'est totalement faux.
L'important, c'est l'aplomb.
Sacha, ouais, exactement. Sacha, son père a joué en NFL. Wow. Grand-il.
Il y a bien un Hill qui a joué en NFL. Hein,
vrai. Son père a joué aux Dallas Cowboys. Bravo. Steve, son père a un second rôle dans Space Jam.
Le père de Grand-il.
Oui, tout à fait.
T'as vraiment inventé ça?
Et peut-être. C'est
je pense que c'est vrai.
C'est faux. Mike, sa mère connaît Hillary Clinton.
Vrai. Ils étaient roommates.
Exactement, à l'université, à Wellesley. Il est bon, Mike. Ah, hein. Oui. Donc, vous reprenez l'avantage. 3-2 pour l'équipe Fred-Mike. Fred, il est double champion universitaire avec Duke.
Dis-le avec de
Grant
la plombe. Hill.
Vrai.
C'est vrai, absolument. Sacha, après son... Non, on va enlever cette question parce que du coup, sinon, j'en ai pas assez. En 95, il est devancé par Jason Kidd comme rookie de l'année, Sacha.
Faux.
C'est faux, en effet, ils sont tous les deux rookies de l'année. Bien. Bravo Sacha. Steve.
Oui, bonjour.
Grant-il a joué avec Tariq Abdul-Wahad?
Grant-il a joué avec Tariq Abdul-Wahad?
C'est vrai ou c'est faux?
À Orlando? C'est vrai.
C'est vrai, 99-2000. Et Mike, Grant-il a joué avec Ronny Turiaf? C'est vrai ou c'est faux?
C'est faux.
C'est vrai aux Clippers 2012-2013.
Ah ouais?
Ouais. Alors, ni l'un ni l'autre ont vraiment marqué leur passage aux Clippers. Mais c'était vrai. Donc, on est à égalité. 4-4. Maintenant, tout le monde joue. Rapidité. Saison 2002-2003.
Il s'est passé.
Quel joueur du Magic termine meilleur marqueur de la saison?
2002-2003. Rashard Lewis?
Non.
Hardaway?
Non.
2002-2003?
Non.
Meilleur marqueur NBA?
Ouais. 2002-2003.
C'est moi.
Alors là, je sais pas quoi faire.
Alors c'est sûr, c'est moi.
Je sais pas
c'est
quoi
sûr.
Faire.
C'est à Tracy, il commence.
Non, il a commencé
en fait,
rapide.
Il a une hésitation de petite vieille. Là, il fait Tracy McGrady. Tu t'es engouffré dans la brèche.
Je donne à Fred. Je vais gagner à la fin.
On le donne à Fred. Ok. 5, 4. Quel joueur? C'est un spécial Orlando Magic. Quel joueur de l'Olympiakos a joué au Magic en 2021-2022?
Olympiakos maintenant.
Actuel.
Canaan. Isaac Canaan.
Non. Un joueur, un ailier.
Alec Peters?
Non, un ailier. Attention, je vous donne sa nationalité, ça a fusé. Lituanien.
Brazekis.
Ignace Brazekis. Bravo Steve, 5-5. Effectivement, je pense que c'est lui qui va gagner à la fin. Ah, je vous fais une charade.
Mike, il a raccroché, oui, toujours là.
Non, je suis toujours là. Mais
Retour de la charade. On cherche un joueur du roster actuel du Magic.
Nom et prénom ou prénom et nom?
Prénom et nom, d'accord. Mon premier, c'est trop la honte pour les Arabes. Mon second est composé de deux
Chuma
hydrogènes.
Chuma
Okeke, bravo.
Okeke, pardon.
Ah, Chuma Okeke.
J'ai fait un petit mix aussi au passage.
Dommage qu'on ne soit pas allé jusqu'au bout, puisque mon troisième a été rendu célèbre par Franck Dubosc sur les plages.
Okeke
des plages. Bravo. C'est donc Chuma Okeke. Et donc Steve et Sacha, vous prenez un point d'avance. 6-5. Quel joueur du Magic, on est dans la saison actuelle, là. Quel joueur du Magic est dans le top 5 des meilleurs intercepteurs? Jalen Suggs, c'est Steve en premier. Quel joueur du Magic est dans le top 5 pour la meilleure adresse au shoot?
Wagner.
Non, c'est Mo Wagner.
Banquero.
Alors, c'est Maurice Wagner. Donc là, qu'est-ce que je fais?
On a dit Wagner. Personne ne prend le point.
Mo.
T'as dit Wagner, tu pensais auquel? Je sais que t'es honnête.
France.
Donc le point, c'est pour Steve.
Ah non, je crois pas.
Quel honneur, il faut saluer l'honnêteté.
Mike, t'as vu comme il est honnête, Fred? C'est fou, non?
Mais c'est impressionnant.
C'est impressionnant.
T'as jamais été aussi honnête.
Merci beaucoup, mec.
Pourquoi tu dis ça?
Il n'a jamais été
aussi honnête.
Non, comme ça.
Comme ça. Bon, je fais le compte des points. On est à 7-5 pour l'équipe Steve Sacha. Et donc, il vous reste la question multipoint. Donc, tour à tour, vous allez me donner un joueur de la finale 2009. Un joueur des Lakers, parce que bien sûr, le Magic, c'est trop facile. Donc,
c'est bon, Arisa.
Attends. C'est Fred et Mike qui sont derrière, donc c'est vous qui commencez. Vas-y, Mike, Trevor Ariza.
C'est bon?
C'est bon.
À qui là?
À Sacha.
À Kobe.
Kobe, c'est bon.
À Fred.
Attends, petite question. S'il y a un de l'équipe qui se trompe, l'équipe est éliminée.
Exactement.
Okay. Ah, il y a un survivant.
Non, il y a un survivant. Fred.
Gasol.
Pau Gasol. C'est bon. À toi, Steve.
Je vais dire Lamar Odom.
Lamar Odom. C'est bon. Mike, à toi.
DJ Mbenga.
DJ Mbenga, bien sûr, bravo. Mais tu commences par les plus durs, c'est pas tactique ça, Mike.
Hey.
Sacha.
Derek Fisher.
Derek Fisher, c'est bon. Fred.
Powell.
Powell, Josh Powell, c'est bon. Steve.
Gasol, on l'a dit.
Oui.
Gasol, on l'a dit, ouais.
Je veux dire Sacha Vujacic.
Sacha Vujacic, c'est excellent. Ça fait 4-4. Mike, c'est à toi.
Luke Walton.
Luke Walton, oh, c'est bon. Sacha.
Je vais tenter Steve Blake.
Steve Blake, non. Tu es éliminé.
Bon, on a gagné.
Ah non, c'est pas fini. D'abord, vous avez toujours un point de retard. Steve.
C'est à moi ?
Ouais.
Jordan Farmer.
Attends, non, c'est à Fred, excusez-moi.
Pour bien entendre.
Est-ce que tu l'avais ? Est-ce que tu l'avais ?
Non,
tu l'avais pas, donc tu m'en donnes un autre. Il y en a un très facile. Hein. On en a parlé dans l'émission. Pas très facile pour toi, pour le big man.
Moi je sais.
Ah,
hein.
Mais tu dis rien, Mike.
Passe ton tour. Mike, il est encore en course.
Ouais, je passe mon tour.
Ah, ok.
Andrew Bynum.
Attends, non, on l'a dit, Andrew Bynum déjà.
Non, on l'a pas dit. Ah. Donc Farmar, je compte pour Steve et Bynum, je le compte pour Mike. Donc
on a fini le jeu là.
Non, il en reste.
Hein?
Il en reste un. Il en reste un. Donc soit tu l'as, Steve, et vous avez gagné. Soit tu l'as Mike et il y a match nul.
Ah, je l'ai.
Attends, c'est à Steve.
Je crois que c'est un mec qui a mis un contre un de mes anciens coéquipiers, un contre iconique. C'est Shannon Brown.
Excellent, bravo Steve, ouais. Vous avez gagné. Bravo Steve et Sacha, vous avez gagné grâce à Shannon Brown. Merci Mike Pietrus.
Merci Mike.
Merci à vous.
À bientôt.
Ciao. À la semaine prochaine.
Bye, ciao. RMC Basket Time.